Bonjour, je reviens sur ce que je vous ai enseigné ces deux dernières fois et on va continuer. Je vais vous faire une lecture dans Romains chapitre 6 et à partir du verset 1. Seigneur Jésus, je te prie de bénir cette parole que je vais apporter maintenant, qu'elle bénisse mes frères et sœurs. Amen. Romains chapitre 6 à 11. Romains 5, 6 à 11. En effet, lorsque nous étions encore empêtrés de nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, c'est-à-dire pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien. Il peut arriver que pour un bienfaiteur ou pour une cause juste, un homme accepte de braver la mort. Mais Christ est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime ? À plus forte raison maintenant, puisque nous sommes acquittés par l'effusion de son sang, pouvons-nous être certains d'être aussi soustraits par lui à la colère à venir? Car si tout en étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison maintenant que nous sommes ses amis et qu'il vit en nous, trouverons-nous par sa vie un salut complet, je dirais même plus, nous pouvons dès à présent nous réjouir dans une vie de communion avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec lui. C'est très puissant. Là, Paul nous révèle d'autres aspects des fruits de ce que produit la justification. Dans les versets 1 à 5, Paul nous montre que, on a vu ça, que nos souffrances sont le lien entre la paix et l'espérance, entre la justification et la glorification. Dans les versets 6 à 11, le lien est constitué par les souffrances et la mort de Jésus-Christ. Que nous dit Paul au sujet de la mort de Jésus ? Il nous rappelle que Jésus-Christ est mort pour ceux qui le méritaient le moins. On ne méritait rien du tout. Il suffit de lire dans quels termes peu flatteurs nous sommes décrits. Premièrement, sans force, incapables de nous sauver par nous-mêmes. Ensuite, nous sommes traités d'impies à cause de notre révolte contre l'autorité de Dieu. Puis nous sommes traités de pécheurs parce que, bien que nous ayons visé le but de la justice par la loi de Moïse ou par les lois humaines, eh bien nous l'avons manqué. Ensuite, nous sommes appelés ennemis à cause de l'hostilité qui règne entre nous et Dieu. C'est accablant. Nous sommes des ratés, des rebelles, des ennemis, des incapables de nous sauver par nous-mêmes. Et pourtant, le point fort de ces versets, c'est que Jésus est mort pour de telles personnes. Et c'est en cela que Dieu nous prouve son amour pour nous. Pour nous, des personnes, des êtres sans attrait, sans valeur, sans mérite, c'est la base de l'argumentation qui suit dans les versets 9 à 11. Ces quelques mots, à plus forte raison, s'appuient sur une vérité pour établir une deuxième qui est plus importante. Paul met en contraste, en fait, les deux principales étapes de notre salut. 1. La justification. 2. La glorification. Et il nous montre que la première est la garantie de la deuxième, c'est-à-dire la justification et la garantie de la glorification. Puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère qui vient. Si nous avons été sauvés de la condamnation de Dieu parce que nous sommes justifiés, alors qu'on ne le méritait pas, combien plus sera notre salut? Combien plus nous serons sauvés de sa colère qui va bientôt exploser? Nous avons été réconciliés avec Dieu, mes frères et sœurs, par la mort de Jésus, et à plus forte raison, on est sauvés, nous serons sauvés de sa colère à venir par sa vie. La vie de Jésus va achever au ciel ce que la mort de Jésus a commencé sur la terre. Je vous propose de lire Romains chapitre 8, verset 33. Romains 8, 33. Toujours dans la parole vivante d'Alfred Kuhn. 8, 33. Qui osera encore accuser les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes et les a acquittés. Dieu nous a déclarés justes et nous a acquittés. Qui c'est qui va nous condamner? Qui pourrait les condamner? Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il plaide notre cause. Qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour de Christ et nous? Nos soucis? Nos épreuves? Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d'habits, d'argent? Est-ce que c'est parce que Dieu ne nous aime plus? Non. Quand nous sommes exposés au danger, menacés d'une mort violente, est-ce que c'est le signe que Dieu nous a abandonnés? Non. Car l'Écriture nous rapporte cette prière, parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort et on nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Eh oui. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Ah, Paul. Jésus vit aujourd'hui et il intercède pour nous. Il n'y en a pas d'autre qui intercède, hein. Il n'y a que lui, c'est le seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Il intercède pour nous et il amène à la perfection ce qu'il a accompli par sa propre mort. Restons dans la paix. Ne nous soucions pas. Dieu contrôle tout. Dieu tient tout sous son contrôle. Qui pourra nous séparer de son amour? Qu'est-ce qui va pouvoir nous séparer de son amour? Personne ni rien. C'est à nous de le croire et de vivre avec cette sorte de foi inébranlable. Si nous sommes affaiblis par quelques souffrances, et ça se peut, eh bien, disons ce que le prophète Joël nous disait de dire. Joël 3, 10. Qu'est-ce qu'il nous disait le prophète? Il disait que celui qui est faible dise « Je suis fort ». Amen. Gardez ça dans votre cœur et dans votre tête. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.